Brameuse Brameur, bon début de semaine à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver. Allons-y pour la grande brammerie en ce lundi 13 janvier. Pour commencer, je souhaite une bonne fête à toutes les Yvette qui nous écoutent ce soir. Bonne fête à vous, mesdames. Au menu de cette émission, cinéma, musique et santé au programme. Dans quelques minutes, nous allons faire connaissance avec un jeune réalisateur. Il s'agit de Clément Villiers. Et il faut savoir que Clément Villiers a également intégré l'équipe de l'association Peuple et Culture Corrèze depuis quelques mois. En cette année, en ce début d'année 2025, Clément a une très très belle initiative. Il a décidé de mettre en place plusieurs ateliers cinéma jusqu'au mois de juin dans les locaux de Peuple et Culture Corrèze, situés au 36 avenue Alsace-Lorraine à Tulle. Au cas où celles et ceux ne sauraient pas, des ateliers où vous apprendrez notamment la mise en scène, le montage ou encore le mixage, bref, plein de belles choses à savoir sur les métiers du cinéma. Le premier de ces ateliers se déroulera le 29 janvier prochain, on en parlera en détail avec Clément Villiers dans quelques instants. Je vous ai dit également qu'on va causer musique aujourd'hui, et plus précisément du rôle du violoncelle dans la musique classique et romantique. Le violoncelle dans tous ses états, nouvel épisode à suivre dans la prochaine demi-heure sur Bram FM avec l'élégante Delphine Fournier à la baguette. Et enfin donc, on va parler santé aussi puisqu'on s'intéressera au stress avec Maria en seconde partie d'émission. Comment gérer son stress, comment le surpasser? Maria répondra à toutes ces questions au cours de cette émission, rendez-vous dans une demi-heure. Voilà le programme pour ce soir, et ça ne vous a pas échappé, hein, il fait un petit peu froid sur les bords. La météo, je fais le point avec vous tout de suite. La météo qui nous attend demain, mardi 14 janvier, où nous fêterons Lénina. Bon, côté ciel, ce sera parfait, impeccable, pas de soucis là-dessus. Ce sera comme aujourd'hui, en fait, un grand soleil et ciel bleu toute la journée sur la Corrèze. Bon, on passe tout de suite aux températures, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse, forcément. On reste en alerte jaune, hein, sur le département. Et oui, comme la nuit dernière, il va faire très froid cette nuit. Il va falloir gratter le pare-brise demain matin. Justement, parlons-en demain au lever du jour. Hein, il fera très froid, hein, très très froid. Dépassera pas les moins 6 à Trégnac, et ouais, tout de même, hein. Moins 4 seulement à Tulle, Userche et Corrèze, moins 3, ce sera le maximum, hein, rendez-vous compte, demain au lever du jour à Brive et Égletons. Demain après-midi, ce sera mieux, et heureusement, me direz-vous, on sera sur du 5 degrés à Saint-Pardoux-la-Croisille et le Lonzac, 6 degrés à Seillac et Saint-Germain-les-Vergnes, 6 degrés également attendus demain après-midi à Chantex et Saint-Pardoux-l'Ortigier, 7 degrés, ce sera le maximum demain après-midi à Argentat-sur-Dordogne. Voilà pour les prévisions météo de ce mardi 14 janvier. N'oubliez pas d'allumer le chauffage, hein, cette nuit, hein, ce sera un petit peu mieux, n'est-ce pas? Rapidement, rapidement, la tendance pour la suite de la semaine. Une semaine qui s'annonce ensoleillée et froide, hein, pour l'instant. Météo France prévoit de belles éclaircies pour mercredi 15 janvier avec des températures matinales toujours négatives. On refait le point sur tout ça ensemble demain soir à la même heure. Yes, ça swing ce soir dans la grande brammerie, histoire de se réchauffer un petit peu, avec le clarinettiste Benny Goodman et son orchestre. All the Cats, John In, c'est le titre de ce morceau. J'espère que ça vous a plu. Ça sent bon les années 40, tout ça. C'est excellent. Allez, retour à l'actualité de ce mois de janvier, sans plus attendre.
Bram FM 98.3.
Pour ouvrir la semaine, premier épisode de la Grande Brammerie en ce lundi 13 janvier, je reçois Clément Villiers. Bonsoir Clément.
Bonsoir Aymeric.
On s'était déjà croisé début décembre 2024, hein, tu ouais. étais venu nous parler de l'Artothèque à Peuple et Culture, hein, puisque je précise que tu es salarié à l'association Peuple et Culture depuis pas très longtemps en fait. Ouais. Et tu proposes, si je t'ai reçu ce soir, c'est parce que tu proposes un atelier cinéma. Affaire à suivre, ce sera mercredi 29 janvier. En quoi va consister exactement cet atelier cinéma et pourquoi tu as voulu le mettre en place ?
Alors cet atelier cinéma, moi je suis salarié à Peuple et Culture, mais à côté je suis cinéaste.
Et oui.
Et voilà, l'idée c'était de proposer dans la programmation aussi de Peuple et Culture un atelier cinéma qui est ouvert à partir de 14 ans, qui aura lieu donc la première séance le 29 de 14 à 18.
Ouais.
Et c'est gratuit. Il y a 6 séances qui sont prévues, donc ça nous emmène jusqu'en juin 2025.
Ouais.
Voilà. Et non, l'idée de ces ateliers, c'était de faire découvrir le cinéma un peu autrement, et de le pratiquer surtout.
Ouais.
Avec des sortes de travaux pratiques qui s'enchaînent sur 6 séances. Et donc c'est des petites choses à réaliser, à faire assez simplement, puisque tout ce dont on a besoin c'est un téléphone portable, donc vraiment une manière de filmer très simple, qui commence avec le plan séquence.
D'accord.
Donc un plan séquence c'est un plan où on lance l'enregistrement et on le termine et ça fait une séquence, donc une sorte de petite narration à l'intérieur.
Ouais. Et là, il n'y a pas de montage, hein, c'est plan-séquence, tout
voilà.
simplement.
Voilà, l'idée, c'est de commencer avec des plans-séquences et puis d'aller progressivement vers le montage et vers tout ce que le cinéma amène de complexité et de plaisir aussi.
Et de richesse,
ouais.
Ouais, parce que c'est un langage universel qui a beaucoup évolué avec le temps, hein, depuis les débuts qui datent du fin 19e siècle, hein, début 20e, il me semble. Hein.
Ouais, bon, c'est ça, le cinéma est officiellement né en décembre 1895 avec la première,
ça
projection
ne rajeunit pas,
des...
tout ça.
Ouais, non, ça c'est sûr. La première projection des Frères Lumière. Et d'ailleurs, la première séance est consacrée en partie au visionnage des premiers films des Frères Lumière qui sont très instructifs sur ce qu'est le cinéma, je trouve, et d'une forme assez simple.
Ouais. Alors j'ai envie que tu ailles encore un peu plus loin là-dessus, parce que ça m'intéresse. En quoi justement le cinéma des Frères Lumière, qui a pourtant plus de 150 ans, non pas 150 ans peut-être pas, mais au moins plus de 100 ans, en quoi il est important de revoir, de revisionner les films des Frères Lumière, qu'est-ce qu'elle peut apporter au langage cinématographique, qu'est-ce qu'on peut y retenir encore de ces petits films ?
Eh ben, déjà c'est l'une des... comment dire ? Le cinéma des Frères Lumière, enfin les Frères Lumière tels qu'ils imaginaient en fait retranscrire le réel, ils imaginaient le retranscrire de manière véridique, réelle, objectif, tel qu'il est quoi. Mmh. Et on a souvent tendance à dire que les Frères Lumière font du documentaire, alors que par exemple Méliès, Georges Méliès qui a fait le voyage sur la Lune. Uh-huh. Donc là, c'est vraiment des décors en carton-pâte avec des espèces de monstres martiens. Enfin, voilà, c'est...
Ah ouais.
Donc on a tendance à dire que Méliès, c'est la fiction et Les Frères Lumière, c'est le documentaire, quoi.
Ouais.
De manière très schématique. Mmh. Et ce que je trouve intéressant dans les films des Frères Lumière, c'est que, en fait, la répartition entre fiction et documentaire est très floue parce que, à première vue, ça a l'air très documentaire. Comme par exemple la première sortie d'usine, qui est le premier film vu de la première projection de l'histoire du cinéma. On s'imagine que c'est vraiment la sortie d'usine des Frères Lumière, mais si on s'y penche un peu, si on enquête un peu sur ce qui se passe et comment c'est fait, on se rend compte que bah, dès le début, il y a de la mise en scène. Dès
ouais,
le
c'est
début,
scénarisé, quoi.
Il y a de la scénar... Enfin, c'est... Ouais, exactement, c'est scénarisé dès le début. Et voilà, et ça enlève un peu la vision qu'on aurait d'un du documentaire qui serait purement une retranscription du réel tel qu'il est.
Je reçois Clément Villiers aujourd'hui dans les studios de Bram FM. Clément Villiers qui est salarié à Peuple et Culture, qui est réalisateur et qui vous propose donc un atelier cinéma mercredi 29 janvier. Il y en aura d'autres dans les mois à venir. Ce sera tous les derniers mercredis de chaque mois. On n'a pas dit où c'est que ça se passait. Ça se passera dans les locaux de Peuple et Culture Corrèze. Donc c'est 36 avenue Alsace-Lorraine à Tulle. Voilà, qu'il faudra se rendre. Pour s'inscrire, il faut tout simplement contacter Peuple et Culture.
Oui, c'est ça. Alors, il y a un contact que je peux vous donner comme ça, mais ça va être un peu difficile de noter. Mais en tout cas, oui, vous pouvez appeler Peuple et Culture. Voilà, il y aura quelqu'un au bout du fil pour vous répondre et voilà, pour me transmettre
cette inscription. Tu as dit que c'était à partir de 14 ans. Tu prends combien de participants au maximum?
Alors, on est la limite, c'est 16, parce que au-delà, c'est un peu compliqué de suivre tous les projets, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans cet atelier cinéma, il y a des travaux pratiques, il y a des parties un peu plus histoire de cinéma et visionnage de films, mais surtout, il y a un accompagnement en fait en fonction des projets de chacun chacune. Donc, si vous avez par exemple un projet de documentaire, de fiction, de clip vidéo, de film de famille, de n'importe quoi qui serait du film, cet atelier cinéma est fait justement pour vous accompagner, quoi.
On a parlé cinéma avec toi, Clément, ce soir. On va parler de d'autres actualités concernant Peuple et Culture Corrèze. Alors, il y a aussi ce relais Artothèque que vous animez tous les deux avec Colline. Comment ça se passe? Ça se passe bien pour l'instant?
Ça se passe très bien, très bien. On a la permanence de l'Artothèque emprunt particulier, puisque l'Artothèque, je le rappelle, mais du coup, c'est un fonds d'œuvre. Du FRAC, du Fonds Régional d'Art Contemporain Limoges. Donc nous, on a 500 œuvres à Peuple et Culture et qui sont empruntables par tout un chacun. Il suffit simplement de venir nous voir et de choisir votre œuvre et de vous abonner. Mais on a mis en place une petite permanence pour que ce soit un peu simple pour les gens de se dire, de venir quoi, tout simplement. Et elle a lieu aussi les derniers mercredis du mois. Donc
rendez-vous pareil, le 29
la
janvier.
La prochaine, c'est le mercredi 29 janvier à 18h.
Très bien, juste après l'atelier cinéma donc.
Juste après l'atelier cinéma, tout à fait.
Et avant le 29, quelques dates à retenir concernant Peuple et Culture Corrèze. Grosse soirée est prévue le 22 janvier.
Oui, grosse soirée avec une programmation de Louis Tessandier et Frédérico Rossin. Frédérico Rossin est un habitué de la programmation de Peuple et Culture. Cette fois-ci, c'est une programmation à deux, qui a pour thème l'enfance et qui commence à 18h avec deux films. Je vais essayer de pas écorcher les noms, mais le premier, c'est un film lituanien, Grazuolė, qui veut dire la belle, de Arūnas Zebruinas. C'est un film de 69. Le thème, c'est l'enfance. Et un autre film qui est Crónica de un niño solo, qui est un film argentin de Leonardo Favio, qui est chronique d'un enfant solitaire.
Un retour à l'enfance, une enfance difficile ou pas, tout dépendra du film ou du documentaire que vous regarderez. En tout cas, voilà, c'est la thématique que vous propose Peuple et Culture pour cette soirée. Ça se passe dans les locaux de l'association, mercredi 22 janvier à 18h. Et je précise, comme quasiment toutes les soirées qu'organise Peuple et Culture, que la participation est libre. Et il y aura un repas partagé, donc venez avec un petit quelque chose, une quiche, une pizza, quelques saucissons, enfin bref, ce que vous voulez, quoi.
Et ça, des petits chocolats.
Ah bah oui, c'est encore la période. Bon, on en a peut-être...
Ou une galette des rois.
Ah ben oui, pourquoi pas, là, c'est pas mal. Clément, on a fait le tour ou quelque chose à rajouter concernant Peuple et Culture ?
Eh ben, je crois qu'on a fait le tour.
On est bon, alors.
Ouais, on est bon.
On est bon pour ce mois-ci, et donc je vous rappelle la principale information de cet entretien que j'ai eu avec Clément Villiers. Ne loupez pas, si vous êtes intéressé, c'est cet atelier, ce premier atelier cinéma que vous propose Clément. Donc, il y aura 6 séances jusqu'en juin, donc pour découvrir comment on fabrique un film, les métiers du cinéma, vous aurez droit à quelques extraits, comment fabriquer un scénario, comment on filme, etc., comment on monte également. Voilà, c'est ce que vous propose Clément Villiers pour ses ateliers. Le premier, c'est mercredi 29 janvier à 14h. Pour vous inscrire, vous pouvez les contacter directement, Peuple et Culture. Merci Clément.
Merci Aymeric.
Et à très bientôt, j'espère.
À très bientôt.
Bram FM.
Début de janvier, si j'ai bien su compter, reste de fête tout bien veut très appuyé. De rue tout de moche, lequel a eu l'idée. Qu'importe, j'ai gagné la course, et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés. Creux de nos mères, qu'il fait bon mûrir. Puis j'ai vu de la lumière. Alors je suis sorti, j'ai dit bonne idée. Parfum de la pluie, chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit. Des routes et des motards, et des matchs de rugby, des spaghettis, Frédéric Dard, et Johnny Winter aussi. On m'a dit c'est qu'une étincelle, avant l'obscurité, juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité. Des frères, des tendres, des trésors à chercher, des vertiges à prendre, à comprendre, des filles à caresser. Je me suis dit bonne idée. Soirée t'est tombée, avec mon sac et ma guitare, j'étais un peu fatigué. Tout était si désert pour me désaltérer. Et puis j'ai vu de la lumière, et je vous ai trouvé.
La Grande Bramerie se poursuit en ce lundi 13 janvier. Comme une fois par mois, j'accueille maintenant Delphine Fournier dans les studios de Bram. Salut Delphine.
Salut Aymeric.
Le violoncelle dans tous ses états, nouvel épisode, c'est parti.
Chères brameuses, chers brameurs, bonjour à tous. À vous tous, je souhaite une excellente année 2025, remplie de musique et, j'ose le dire, accompagnée de belles chroniques radiophoniques sur Bram FM, bien sûr, et sur le violoncelle aussi, bien sûr. Je vous ai quitté sur des musiques ensoleillées en décembre 2024 et aujourd'hui, on parle du violoncelle classique dans toute sa splendeur. Alors attention, on entend musique classique et parfois on se dit « Oh, ce n'est pas pour moi, c'est classique, c'est sérieux », mais pas du tout. Je suis persuadée que ma chronique va vous faire changer d'avis s'il en est besoin. Parce que la musique classique, c'est une multitude de styles musicaux très variés. Et le violoncelle va vous séduire aujourd'hui dans différents extraits de concertos. Le concerto, c'est une forme musicale un peu magistrale et un peu mise en scène aussi. Aymeric, si tu le veux bien,
oui.
Asseyons-nous tous, auditrices, auditeurs, dans une belle grande salle de concert. Les membres de l'orchestre, de 30 à 100 musiciens, selon les époques, s'installent et s'accordent. Tous les instruments doivent jouer exactement les mêmes hauteurs de son. Par exemple, un do, joué sur un instrument, peut avoir une petite touche de couleur qui va se rapprocher du rouge, et un autre instrument jouera un do, et la note se rapprochera peut-être un petit peu de l'orange, par exemple. La différence est très ténue, comme en peinture, mais un orchestre doit s'accorder sur la même teinte avec exactitude. Arrive ensuite là où le soliste, aujourd'hui violoncelliste, mais ça peut être un autre instrument, il prend place devant l'orchestre, suivi du chef d'orchestre. On applaudit, bien sûr, Aymeric.
Évidemment.
On salue tout le monde. Le chef d'orchestre va donc faire en sorte que tout ce petit monde joue bien ensemble. Voilà ce que c'est qu'un concerto. Une œuvre musicale où le soliste, qu'on va entendre plus que les autres instruments, et un orchestre qui vont nous raconter des histoires, simplement. Bienvenue donc tout de suite dans le monde merveilleux de Philip Glass, un compositeur américain toujours en vie. Je vous propose un extrait de son deuxième concerto pour violoncelle et orchestre. C'est parti! C'était le deuxième concerto pour violoncelle et orchestre de Philip Glass, intitulé Nakoikatsi. C'est une pièce moderne pour le violoncelle, accompagnée d'un orchestre au grand complet, on l'a entendu, et même avec un chœur d'hommes. Et cette musique est en fait tirée d'une musique de film de Philip Glass. C'est une histoire pas très drôle, Aymeric. Une histoire de robots et de guerre. Voilà, en gros, résumé le scénario.
Mais ce n'est pas Terminator.
Non, non. <c'est... rire> Alors, on connaît parfois Philippe Glass grâce justement à ses musiques de films. Tu as peut-être vu, Aymeric, The Truman Show, un film qui est sorti, je crois, dans les années
90, semble-t-il. Ouais.
C'est ce que je dirais aussi, avec Jim Carrey.
Oui, forcément.
Ouais.
Le Jim Carrey.
Ouais, superbe film. Alors, Philippe Glass, il nous transporte dans des mondes assez fabuleux grâce à son génie et sa technique de musique minimaliste. Minimaliste car il défend l'idée que la beauté vient de la simplicité. Il utilise des tout petits motifs musicaux qu'il répète, qu'il développe ensuite et il crée ainsi son univers que je ne lasse pas d'écouter. J'espère que ça vous plaît.
Ça m'a plu, moi, personnellement.
Bah, attends,
The Truman Show 98.
Ah, voilà.
Voilà, donc on était bon.
Voilà, c'était bon, on ne s'est pas trompé. Alors, aujourd'hui, c'est le cinquième épisode, il me semble, des chroniques autour du violoncelle. Et je crois, Aymeric, que je ne vous l'ai pas encore dit, mais le violoncelle a plus de 400 ans d'existence. Alors, à son apparition, en brave grand frère des violons, il les accompagnait avec des ploum, ploum, très basiques. Mais comme à la longue, bon, c'est un peu frustrant.
Ouais, le ploum, tu m'étonnes.
Eh oui, le ploum, c'est sympa, mais voilà. Au bout d'un moment, bien, à partir du XVIIe siècle, les interprètes, les compositeurs ont rêvé de belles pages pour le violoncelle et ont dédié donc à ce bel instrument, des concertos. Nous allons donc écouter à présent un extrait de concerto du XVIIIe siècle, une œuvre de Carl Philipp Emanuel Bach. Vous aurez reconnu ce nom de famille, bien sûr.
Ouais.
C'est donc un des fils de Jean-Sébastien Bach. Redingotes brodées de fils de soie, belles étoffes et perruques sont donc à présent de mise. C'est parti. C'était un extrait du concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur de Carl Philipp Emanuel Bach, interprété par la soliste Ophélie Gaillard. Voilà donc un style très chic de musique classique, c'est fin, distingué et ça ne manque pas de caractère en même temps, je trouve. Le concerto, les définitions de dictionnaire nous le disent, c'est un dialogue musical entre un instrument soliste, aujourd'hui le violoncelle, et un orchestre. Et je trouve que cet extrait musical est une bonne démonstration de ce dialogue. Mais la définition officielle ne le dit pas, mais jouer un concerto en tant que soliste, c'est aussi l'occasion de briller. C'est l'occasion de dévoiler sa personnalité, de faire une démonstration de virtuosité, de gonfler à bloc son ego. Alors je dis ça un peu en riant, mais c'est plutôt vrai. Alors il faut être fait pour ça, pour être soliste devant un orchestre. C'est un peu comme être le leader d'un groupe de rock. Et en plus, le soliste, lui, n'a pas son groupe fixe, habituel. Il voyage beaucoup, il doit s'adapter aux salles de concert, il doit s'adapter aux différents chefs d'orchestre, aux orchestres eux-mêmes, pour créer ensemble un récit. Et au-delà du dialogue musical, ils créent ensemble, très souvent, une histoire d'amour. Solistes et orchestre, côte à côte, regardent dans la même direction. Quoi de mieux que la musique romantique pour illustrer ceci ? J'ai choisi le compositeur français romantique Camille Saint-Saëns, dont nous fêtons en 2025 les 190 ans de la naissance. L'orchestre prend le violoncelle par la main, ils s'élancent tous les deux. Ce sont les dernières mesures du concerto numéro 1 de Camille Saint-Saëns que je vous propose et qui vont clôturer notre chronique du jour. Que 2025 soit rempli d'amour et d'amitié.
Merci beaucoup Delphine, à très bientôt.
À bientôt.
Lundi 13 janvier, la Grande Brammerie continue pour une nouvelle rubrique à votre santé avec Maria. Salut Maria.
Salut Émeric. Yes, bonjour et meilleurs vœux. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne année puisque j'ai pas encore eu l'occasion à vous à la radio bénévole. Et voilà, tous mes vœux de bonne continuation sur cette idée de radio locale qui est vraiment indispensable.
Merci beaucoup Maria, meilleurs vœux à toi aussi.
Merci.
Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui c'est une occasion supplémentaire d'apprendre des informations bien utiles sur nous, être humain et notre précieux fonctionnement. Aujourd'hui on parle du stress.
Vaste programme. Le stress, en fait, ce mot revient très fréquemment hein, dans nos bouches, dans celles de nos partenaires de santé, dans celles de nos présentateurs télé également, dans nos expressions, sur les affiches, les slogans publicitaires et j'en passe, bref, à toutes les sauces. Et il semblerait qu'il soit partout, dans tout ce qu'on s'apprête à faire. Mais au fond, de quoi parle-t-on, Maria, quand on parle de stress ?
Oui, c'est vrai qu'on l'entend, mais de partout. Ce mot revient très souvent et merci pour ta question. Alors, lorsqu'on se penche par exemple sur les définitions de base, voilà ce qu'on peut trouver. Alors, en biologie, par exemple, le stress, c'est l'ensemble des réactions d'un organisme vivant soumis à des pressions ou des contraintes de son environnement. Le milieu médical, lui, parle d'une séquence complexe de situations qui provoquent des réactions physiologique, psychologique et somatique, c'est-à-dire physique. Le mot, lui, sinon, il emprunte du mot anglais qui, lui-même, est issu de l'ancien français du mot détresse. Alors, Claude Bernard, qui est un médecin physiologiste du 19e siècle, on fait un petit peu un petit rétro-feedback là, il fut l'un des premiers à donner une interprétation de ces effets de l'environnement, donc du stress, comme une rupture de notre équilibre sur notre comportement. Selon lui, les réactions qui sont dues à cet environnement, ces contraintes, ce stress vise à maintenir l'équilibre de notre organisme. Et puis Walter Cannon, qui est un physiologiste américain fin 19e et 20e, propose lui le mot d'homéostasie pour définir cet équilibre interne, qui serait donc la tendance des corps vivants à stabiliser leur organisme. La notion, elle, de stress, apparue dans les années 1930 avec l'endocrinologue Hans Selye, se décline sous plusieurs aspects, le bon et le mauvais. Il a proposé le mot eustress avec le préfixe grec eu qui signifie bien ou bon. Donc littéralement, le stress est aussi le bon stress.
Donc le stress peut être bon, Maria. Étonnant.
Oui, étonnant. Parfois on l'oublie, mais cet ensemble de phénomènes, c'est avant tout, et bien avant tout, une formidable mécanique qui est dédiée à notre survie. Et c'est bien grâce au stress, donc ces facteurs environnementaux, que les espèces vivantes évoluent en s'adaptant en permanence à leur environnement. Il a donc un rôle adaptatif essentiel, car tout comme un matériau ne peut résister qu'à des contraintes modérées et ponctuelles, l'homéostasie, cet équilibre interne, ne peut être maintenu que si la fluctuation, on va dire, de sa normalité reste faible. Au-delà, ce stress va permettre d'y faire face, et toujours selon Walter Cannon, il est le complément, donc la deuxième phase de notre pièce, le complément à notre équilibre interne. C'est ce que l'ombre est pour la lumière, par exemple, il n'existe pas sans l'autre.
Mmh. Tu as parlé d'espèces vivantes, Maria, donc le stress, ce n'est pas que pour les êtres humains, en fait.
Eh bien non, on l'observe chez les animaux sauvages, les animaux domestiques, les animaux d'élevage, mais aussi chez les végétaux, les plantes, les arbres, les fleurs, bref, tout organisme vivant, c'est observable hein, autour de nous. Par exemple, on peut retrouver le plus communément chez nos amis les végétaux un stress qui peut être lié à la prédation hein, des herbivores, un stress lié à la température, dit stress thermique, ou lié à l'environnement pluvial, c'est-à-dire le stress hydrique, sécheresse ou inondation. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les facteurs de stress, quels qu'ils soient, activent la même mécanique que pour nous, chez eux, chez les végétaux, chez les animaux, que pour nous, êtres humains. Et on partage avec l'ensemble du vivant cette nécessité absolue, de nous adapter à notre environnement. Ce lien stress-homéostasie-adaptation fait son chemin jusqu'à nos jours et illustre l'approche biologique. Cette approche-là, elle permet d'expliquer l'utilité du stress grâce à l'observation de son mécanisme, je dirais de manière physiologique, quantifiable, etc. Il permet ce stress de préparer les organismes vivants à des réponses rapides et intenses, comme la fameuse capacité à fuir ou combattre ou lutter, comme on l'appelle, et donc de survivre à une situation choquante.
Tu as parlé d'une mécanique du stress, Maria. Concrètement, comment elle se manifeste, cette mécanique, dans notre corps et notre vie de tous les jours?
Oui, alors, pour revenir aux travaux de Hans Seil, qui est endocrinologue, lui, dans les années 60, il emploie le terme d'état de stress pour décrire ses observations sur le sujet. Et donc, il amène cette vision moderne que l'on connaît aujourd'hui, le fameux syndrome général d'adaptation. Notre organisme répond alors à un contexte stressant par une réaction de trois phases successives. Ces trois phases successives, les voici, c'est la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Alors, là, je me permets d'amener un petit exemple. Je ne sais pas si tu as un chat à la maison, mais nos chats...
Un chien. Ça marche aussi,
bon, je parfait. Pense. Mais nos chats, eux, ils sont quand même... ils illustrent bien ces trois phases-là. On peut les retrouver quand on les observe dans notre quotidien. Par exemple, sur un événement extérieur qui peut ressembler à un événement stressant, prenons un chien qui rentre dans son territoire. Le chat, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va baisser ses oreilles, puis il va grogner ou feuler. On va l'entendre siffler, souffler, gonfler sa queue, et on le voit qu'il se prépare à bondir. En phase 2, la phase de résistance, le chat, lui, il va pas fuir, il va combattre, par exemple, et il va se prendre, le chien, une bonne rafale de griffes sur le museau. Une fois que le chien sera parti, la queue entre les pattes, on arrive à la phase 3, la phase d'épuisement. Alors ce chat, qui a lutté, va retrouver un petit coin sûr pour aller récupérer. Et lui montre bien l'exemple, car il va récupérer le temps qu'il lui faudra. Ces trois phases, on les retrouve chez nous. Et on peut les observer aussi chez nos animaux préférés.
Très bien. Mais tout ça me pose problème. Enfin, ça me rend un petit peu confus sur ce stress. Est-ce qu'il est bon ou pas concrètement, Maria?
Alors, à ce stade-là de notre explication, l'issue, elle n'est pas encore connue. Quand l'événement extérieur arrive, c'est l'état d'urgence, donc cette fameuse phase d'alarme. Nous allons revenir plus en détail sur chacune de ces phases. Qu'est-ce qui se passe alors dans mon corps au niveau physiologique? Et là, on rentre vraiment dans le détail. On va parler des trois systèmes neuro-hormonaux qui sont impliqués. La phase 1, c'est la phase d'alarme. Toutes les forces de mon corps, de mon organisme, vont être mobilisées. Alors, on le retrouve sur l'axe hypothalamo-sympathico-adrénergique. L'hypothalamus, lui, par le biais du système nerveux sympathique, va stimuler une glande, la médulo-surrénale, qui est la partie centrale de nos glandes surrénales qui, elles, sont au-dessus des reins. Et elle, elle va sécréter l'adrénaline et la noradrénaline, qu'on connaît un peu plus familièrement. Ces hormones vont augmenter la pression artérielle, elles vont accélérer le rythme cardiaque et ma respiration. Puis elles vont augmenter le taux de sucre dans le sang, mes pupilles vont se dilater, je vais mieux y voir, ma mémoire et ma réflexion vont en être améliorées. Le phénomène de digestion, lui, va rester au ralenti, car l'oxygène, lui, va devoir aller dans mes muscles. Ces hormones, elles permettent la mobilisation donc de mes stocks d'énergie. Elle va utiliser deux procédés différents, hein, si on veut rester dans le détail, la destruction des graisses et la mise en circulation du glycogène de réserve. L'objectif, fournir aux muscles l'énergie suffisante pour cette fuite ou ce combat. Pour finir cette phase, les hormones, ici ce seront les catécholamines, stimulent l'hypothalamus afin qu'il favorise donc cette reconstruction de l'énergie qui a été épuisée. En bref, le système hormonal garantit les ressources nécessaires pour agir physiquement en permettant aux organes qui sont liés au mouvement, hein, d'augmenter leur fonctionnement, c'est-à-dire donc soit de prendre mes jambes à mon cou, soit de rester et de lutter. C'est vraiment une mise à disposition rapide, hein, avec une durée déterminée, elle est limitée, hein, cette durée, c'est vraiment quelques minutes au grand maximum. Et il est important de noter ici que l'hypothalamus, entre autres, est en lien avec le cortex, le système cognitif et perceptif, puis le système limbique, qui fait partie donc du système d'intégration des expériences et des réactions affectives. Il y a donc un lien entre la cognition et l'émotion. On rentre dans la phase 2, cette phase de résistance. Si la situation persiste, l'adaptation arrive. Alors ici, c'est le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou appelé aussi CRH. Cet axe-là, lui, il est plus lent. On n'est plus sur la réaction, vraiment la mise à disposition rapide. On est sur un axe beaucoup plus lent. Et peu de temps après la première phase, le système libère des glucocorticoïdes, appelés cortisol chez l'homme. Et ces nouvelles hormones, elles augmentent le taux de sucre dans le sang, pour le cœur, les muscles et le cerveau, afin de maintenir le niveau de glucose nécessaire au bon fonctionnement de ces organes. Arrive la troisième phase, la phase d'épuisement. Pourquoi ? Si la situation se prolonge ou s'intensifie, l'organisme, lui, il entre littéralement en épuisement. Ses capacités sont débordées. L'autorégulation hormonale devient impossible et inefficace. L'organisme se trouve envahi d'hormones activatrices dont la fonction peut perdre son bénéfice, voire devenir néfaste pour l'organisme. Dans cet état de stress, on l'appelle chronique, les récepteurs de l'axe nerveux central perdent leur sensibilité devant cette suractivité hormonale. L'hippocampe, lui, est saturé de cortisol et devient incapable d'assurer sa fonction de régulation. Ce cortisol va envahir le cerveau. On peut alors observer, la plupart du temps, on peut observer des altérations du fonctionnement dans plusieurs zones du cerveau, notamment dans l'hippocampe, dans l'aire de l'amygdale ou du cortex. C'est pas une obligation, mais c'est observable. Notre santé devient affectée. Notre équilibre qui a été rompu, cette fameuse homéostasie qui a été rompue, elle l'est rompue depuis trop longtemps, et l'organisme commence à en pâtir. Je vais te donner un exemple, hein, c'est un peu comme si je me retrouve avec un pneu crevé, hein, et je n'ai rien pour le changer sur place. Alors je vais mettre un bout de scotch, et le bout de scotch que j'ai mis sur mon pneu, le temps que je trouve une roue de secours ou un garagiste est épuisé, il va finir par se détacher, hein, ce bout de scotch, et non seulement mon pneu il sera toujours à plat, mais je commençais à endommager ma roue, ma jante et le reste de mon système, de mon véhicule. C'est vraiment ces mises en disposition là de l'organisme, hein, et calculées pour pouvoir trouver une solution rapidement, quoi.
Voilà, d'où la métaphore par rapport à la phase d'épuisement.
Oui,
on parle du stress aujourd'hui avec Maria, thérapeute en biologie émotionnelle, pour une nouvelle rubrique à votre santé. Qu'est-ce que ça provoque alors, le stress, Maria ?
Alors on l'a vu, hein, la durée dans le temps joue un facteur essentiel dans l'appréhension de cette situation de stress, hein, de ces facteurs différents dans mon environnement. Et cela peut avoir des répercussions sur ma santé morale, physique et psychique, voire devenir négatif, car vraiment drainant en énergie et donc épuisant pour moi même moralement. On a tous entendu parler de ce syndrome d'épuisement appelé burn-out.
N'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? En effet, dans notre monde moderne, les prédateurs, les agresseurs, les contraintes, les obligations prennent des aspects divers et variés. Et pour chaque personne, le résultat est bien différent, bien distinct. Dans nos sociétés, nos cultures, nos codes, nos moyens de répondre et de s'adapter aux situations dépendent elles aussi de plusieurs facteurs. Par exemple, est-ce qu'il est vraiment possible de s'opposer à son patron alors que ça fait la 18e fois qu'il me demande de rester après 18h après le boulot, alors qu'il faut que j'aille chercher ma fille à la crèche, alors que je dois ramener mon père, ramener faire ses analyses de sang. Est-ce que c'est possible, effectivement, quand je suis jeune, hein, quand je suis tout enfant, est-ce que c'est possible de répondre à mon papa s'il m'agace ou ma maman si elle m'agace, est-ce que dans ma culture on m'a appris à, on m'a autorisé à m'exprimer, est-ce qu'on m'a plutôt réprimé, accepté, est-ce qu'il est possible de combattre un agresseur quand on est victime de sa taille ou de son âge, et voilà, tout simplement aussi ça nous arrive les fins de mois, hein, quand mon compte en banque se rapproche de zéro,
n'est-ce pas,
du zéro absolu, comment faire pour aller chercher mon pain qui va nourrir ma famille, enfin voilà,
tu as bien choisi les exemples, hein,
voilà, les exemples nous parlent, parce qu'effectivement, contrairement à notre mécanisme qui lui reste archaïque, notre mode de vie qui ne l'est plus, eh ben, multiplie les facteurs de stress environnants et nos possibilités d'y répondre et de nous adapter. Ce qui font de nous bah, parfois des personnes qui vont inhiber et là démarrent les complications. Hein.
Alors Maria, si on arrive à surmonter son stress concrètement, comment ça se passe ?
Alors oui, on parle de négativité, mais le stress peut être surmonté
et heureusement d'ailleurs.
Et c'est là où ça devient adaptatif, positif, constructif et voilà, on peut évoluer. On peut dire qu'on s'est adapté alors à la situation quand on a surmonté le stress. À ce moment-là, on a intégré de nouveaux paradigmes qui nous font évoluer. Par exemple, imagine que tu as stressé parce que demain, hier matin, tu devais passer plutôt un entretien d'embauche. Hier après-midi, il est terminé. Tu peux enfin aller faire l'apéro avec les copains, ouf, c'est terminé. Mais pendant cette expérience-là, tu as acquis des choses, peut-être inconsciemment. Par exemple, tu as pu, évoluer sur ton expression orale, ou peut-être tu as pu acquérir de nouvelles compétences et tu as pu les mettre en pratique ce jour-là. Ou alors, par exemple, tu es en voiture dans Tulle et puis un piéton qui arrive et tu as pu freiner à temps et éviter un accident. Et là, tu es soulagé, j'imagine.
Ah oui, figure-toi que ça m'est arrivé. Pas plus tard que le week-end dernier.
Voilà, parfois, effectivement, notre environnement nous confronte à des situations et on peut y répondre. Et à ce moment-là, voilà, on passe à l'étape d'après, on évolue. Mais voilà, il reste quand même une phase qui, elle, est très importante et qu'on oublie souvent, même lorsqu'on a surmonté quelque chose et qu'on a évolué. C'est ce fameux temps de récupération. Et là, je vous demande vraiment de vous rappeler l'exemple du chat. Parce que vraiment, les chats sont nos meilleurs amis en matière de zénitude. Et eux nous montrent vraiment l'exemple pour nous relaxer. Cette phase de récupération se compose de deux temps. Le premier temps, c'est du ralentissement et le deuxième temps, c'est de la détente. Dans cette première phase de ralentissement, nos sécrétions hormonales, dopamine, adrénaline, endorphine, cortisol, reviennent à la normale. Les battements de mon cœur et mon souffle se stabilisent enfin. Dans la seconde phase, qui est la phase de détente, c'est là où on ressent cette sensation de fatigue. Parce qu'on a drainé de l'énergie, rappelez-vous. Et elle s'estompe, bien sûr, après un repos qui, lui, a besoin, en tout cas, d'être adapté et proportionnel. Et au niveau psychique, l'illustration fait que la tension peut redescendre, ma vigilance n'a plus besoin d'être au top niveau, elle peut baisser, et mon esprit, lui, il peut enfin s'apaiser.
Clairement, donc, le stress peut être surmonté, il faut trouver des solutions. Est-ce qu'il y a un moyen ou plusieurs moyens, Maria, de gérer le stress ? J'imagine que oui.
Alors oui, là, sur ces 30 dernières années, notre société a pléthore de propositions, puisqu'effectivement, ça devient de plus en plus environnement semble de devenir de plus en plus stressant pour nous. Alors l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, elle propose un guide de gestion du stress dans lequel elle invite à modérer nos actions, à inclure des routines, des rituels. Elle encourage la constance. Elle invite à rester en contact aussi avec son entourage et surtout de pas tomber dans l'isolement qui pourrait aggraver des fois le stress et le moral pourrait aggraver notre moral. afin de surmonter de nombreuses propositions fleurissent hein, depuis ce phénomène appelé le mal du siècle industriel, comme les médecines douces, les médecines alternatives, les soins de relaxation, les accompagnements pour sortir de l'isolement, pour nous aider à trouver la forme la plus cohérente d'adaptation à notre situation. Il y a aussi des moyens d'expression artistique, comme les art-thérapies, entre autres, ou alors les thérapies de parole et d'écoute. Alors j'en viens à la biologie émotionnelle qui, elle, oui, est un des accompagnements les plus adaptés, car elle est apparue dans ce monde contemporain, et c'est une réponse réelle à cette lutte, à cette réponse qu'on ne peut pas toujours avoir dans une situation, et c'est ça fait de cette pratique un des accompagnements les plus cohérents pour gérer son stress. Car c'est bien lorsque nous nous retrouvons sans solution devant une situation que notre physiologie prend le relais en nous offrant un délai supplémentaire de survie qu'on appelle maladie ou symptôme. Elle permet ce qui n'est pas dans ces situations, c'est-à-dire de s'exprimer et de pouvoir agir.
Ce qui n'est pas négligeable. Pour résumer, Maria, que faut-il faire pour gérer son stress?
Alors, en bref, Aymeric, là, pour gérer le stress, il convient donc de maintenir cet équilibre qui existe déjà en nous. C'est alors la condition d'une vie équilibrée et indépendante face à un environnement toujours changeant. Cette homéostasie, équilibre interne, est obtenue par un équilibre qui est toujours mouvant, mobile, qui dispose de ses propres techniques de régulation en gérant ainsi l'excès ou l'insuffisance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous. C'est apprendre à se connaître, c'est apprendre notre fonctionnement. Et quand je sais comment je fonctionne, déjà, un début d'apaisement commence parce que j'ai des outils, ils existent à l'intérieur de moi. Et lorsque ce sentiment de difficulté arrive, j'ai envie de dire appelez-moi. Voilà, pour en savoir plus, j'ai envie de
donne ton 06 alors.
Ouais. Alors mon 06, je vous le donne là tout de suite, c'est 06 24 37 01 11, il y a pas de secret, il est sur ma carte de visite professionnelle également, et bientôt vous pourrez visionner le site web officiel en ligne.
Yes.
J'ai envie de vous proposer une lecture pour finir la chronique.
Vas-y.
C'est un bouquin qui s'appelle Mon corps pour me guérir, l'auteur est Christian Flech qui lui-même pose les fondamentaux pédagogiques de cette biologie émotionnelle. Voilà, je vous invite à le parcourir, c'est un bon petit livre de chevet. Pour la prochaine fois, je ne sais pas encore, j'avais marqué un truc mais je ne suis pas certaine, donc je vous dis la prochaine fois, surprise.
Bon, j'allais te poser la question, justement, ça tombe bien. Donc ce sera une surprise. On a parlé du stress avec toi, une chronique à retrouver tout bientôt sur bramfm.com, à votre santé. On a terminé pour ce nouvel épisode. Quoique pas tout à fait, puisque tu nous proposes pour nous détendre, pour surmonter notre stress, non seulement tu nous proposes ton 06, mais aussi un groupe marseillais. Décidément, tu aimes bien Marseille, toi.
Ah, écoute,
je vais parler à l'accent si ça continue.
Ouais, alors là, on va un peu les chatouiller de l'accent. je vous propose un collectif qui n'existe plus, mais qui a vraiment fait des spectacles et des chansons extraordinaires, qui s'appelle Très Énervé. Donc, vous retrouvez 13 comme le fameux chiffre de Planète Marseille et NRV, qui propose un titre qui s'appelle Ski Nautique dans la baie de Marseille. Attention aux cigales et aux pastis, ça va réjouir.
Ouais, et puis surtout, ça va nous tenir chaud, on en a bien besoin en ce lundi 13 janvier. Merci beaucoup Maria, et au mois prochain.
À la prochaine Aymeric, merci.
Salut.
Dans la baie de Marseille, au soleil, on va toutes sur une mer d'huile à l'autre bout de mon fil. J'oublie tout. Regarde un peu comme je fends les flots accrochés à mon bateau.
Je réveille 50 000 en sol d'envie.
Mise un peu le maillot, artère.
Et puis je t'explique que même pas comment je prends les filles.
Laissez-moi passer, c'est un conseil d'amis. Je veux dire, poussez-vous, tant pis, je vous l'aurais dit. C'est comme moi je vais jusqu'à l'autre. C'est comme moi je fais le ski nautique. Bonjour. Hey, c'est toujours bonjour quand je skie. D'ailleurs, il n'y a personne. Ça me rappelle le générique d'Amicalement Ventre. Alors je dis bonjour comme ça à personne. Car comme je glisse sur cette mer lisse, cacou. le pastis qui fait la différence. Car voyez-vous quand je skie, je bois du pastis. Salut, et ce depuis toujours.
Ce que je crois est loin d'être le cas de Tony Curtis.
Loin d'être le cas, si loin d'être le cas. Et Roger Moore. C'est que moi je fais ce qu'il dit. Non, c'est que moi je fais ce qu'il dit. Comprenez que ce qui fait que depuis toujours au petit jour, quand j'ai envie de faire tout à ski, c'est que l'amour que j'ai de ski est si fort, qui fait que ce n'est que pour skier que je sors sur le bord aux oranges sans effort.
Bram FM